Radio Barque, un invité sur Grand Sud FM pour mieux connaître ceux qui font l'actualité régionale. Radio Barque, c'est le 31e de notre 9e saison. Je reçois aujourd'hui Éric Camousse. Bonjour monsieur le procureur, puisque vous êtes procureur du tribunal judiciaire de Narbonne.
C'est bien ça, bonjour.
Et alors vous êtes en place depuis deux ans et quelques, je crois.
Deux ans et demi.
Voilà. Et vous avez démontré que vous êtes convaincu de la nécessité pour la justice de communiquer, de faire savoir ce que vous faites, et on vous a déjà d'ailleurs reçu de temps en temps pour certains points particuliers. Dans Radio Barque également, vous êtes venu une fois pour faire un tour beaucoup plus général de ce qu'est la justice aujourd'hui et ce que représente aussi un procureur, parce que je suis certain que beaucoup de gens ont des idées relativement floues sur votre mission. Donc, on va commencer par ceci. Votre travail du procureur, en quelques mots, comment l'expliquer, si c'est possible, en quelques mots?
Alors, c'est un travail du quotidien qui conduit sur une journée une journée entière, tout simplement le matin de faire le point avec mes collègues sur ce qui s'est passé pendant la nuit, puisqu'il faut savoir que nous sommes de permanence H24, 365 jours par an, puisque n'importe quel événement peut se produire qui nécessite l'intervention d'un procureur de la République ou en tout cas qui lui sera rendu compte. Et à la suite de quoi le travail se découple entre, d'un côté, le suivi des procédures, leur bonne administration, le fait d'aller requérir à l'audience, et en même temps de donner des directions d'enquête, de poser des organisations, de faire de vraies réunions de travail, de préparer des conventions et de rendre compte à mon administration du fonctionnement de la juridiction. Et c'est vrai que je dis parfois que nos journées font 36 heures, mais ce n'est pas nécessairement une vue de l'esprit, puisque mes collègues et moi, et d'ailleurs tous les magistrats du tribunal, comme tous les magistrats de France, ne comptent absolument pas leurs heures. Et si certains de ceux qui nous écoutent passent à côté du tribunal un samedi soir ou un dimanche soir pendant les périodes d'hiver...
Et s'ils voient la lumière, ce n'est pas une invitation à entrer forcément.
Nous n'avons pas oublié la lumière, ça veut dire tout simplement nous travaillons.
Oui, alors finalement, si vous me permettez cette comparaison, votre revendication, ce n'est pas la semaine des 35 heures, c'est la journée des 36 heures.
En tout cas, c'est le fait que nous sommes extrêmement attachés au métier que nous exerçons. Nous aimons ce métier, nous aimons la justice et puis surtout, nous avons décidé un jour de rendre à cette justice ce qu'elle mérite.
Alors, monsieur le procureur, vous faites partie de ce qu'on appelle dans le jargon de la justice le parquet. Alors là encore, un terme obscur dans sa signification judiciaire.
Alors pour comprendre ce qu'est la mission d'un procureur, enfin en tout cas sa place dans l'architecture judiciaire, il faut simplement avoir conscience que celui qui décide, c'est le juge. Celui qui dit le droit, c'est-à-dire en matière pénale, celui qui prononce une peine après avoir déclaré la personne coupable de l'infraction qui lui est reprochée, c'est le juge. Et ça ne peut être qu'un juge.
Et lui, c'est ce qu'on appelle le siège.
C'est ça. Alors qu'un procureur de la République a en charge le suivi des enquêtes, décide si la personne doit ou non répondre des faits qui lui sont reprochés devant un juge. Et une fois que le juge a prononcé une peine, eh bien en charge ce que nous appelons l'exécution des peines. Pour faire court, le procureur s'occupe de tout ce qui existe avant et après la décision de justice.
Oui, voilà. Bon, essayez de cadrer un petit peu au niveau du fonctionnement, des responsabilités, la répartition. Une toute petite parenthèse pour commencer, puisque la justice est au service de tout le monde. Il existe aujourd'hui des maisons France Service qui sont installées essentiellement dans des endroits ruraux pour suppléer justement à la disparition de certaines administrations. Et il semble que le ministère de la Justice a sa place dans ces maisons France Service.
Oui, parce que cela renvoie à une politique de déconcentration des services publics et surtout de restructuration de leur action. C'est vrai que on entend dire que les services publics disparaissent les uns après les autres des communes rurales et se concentrent dans les milieux urbains. En même temps, Vous voyez bien qu'il y a une volonté politique très forte en matière de restructuration territoriale qui fait que, à travers les maisons France Service, l'État entend regrouper l'ensemble de ses missions autour d'acteurs qui sont clairement identifiés et dans lesquels la justice a sa place.
Oui, voilà. Donc, à terme, il y aura... c'est en train de se mettre en place, d'ailleurs. Souvent, alors, ces maisons se mettent en place.
C'est en train de se mettre en place, sachant que nous avons déjà développé un certain nombre d'actions à travers la maison de justice et du droit, à travers le rôle de l'association d'aide aux victimes qui travaille en étroite collaboration avec mes services, et également avec tout ce que la justice a pu développer de missions telles que celles diligentées par les délégués du procureur de la République ou les médiateurs pénaux pour rapprocher cette justice de nos concitoyens.
Oui. Et alors, sur le plan territorial, donc, nous sommes dans le département de l'Aude, il y a un tribunal à Narbonne, tribunal à Carcassonne, la préfecture, ce qui est logique et ne surprendra personne, mais on apprend par exemple que Madame Corvézier, qui a le titre de vice-procureur,
c'est bien ça.
On va revenir peut-être en deux mots sur cette hiérarchie, peut intervenir, c'était le cas récemment, dans un point presse à l'autre bout du département, à Castelnaudary. Alors, quelle est la territorialité, si je peux employer ce mot ?
Alors, les tribunaux de Narbonne et de Carcassonne ont leurs compétences sur des ressorts qui leur sont spécifiques. Mais la loi a fait que, pour certaines infractions, il existe des tribunaux spécialisés. Et il faut savoir, par exemple, que le tribunal de Narbonne, depuis un décret du 20 décembre 2021, à compétence pour tout ce qui concerne la fraude fiscale, le travail dissimulé et les infractions en matière d'urbanisme constatées sur l'ensemble du département. Le tribunal de Carcassonne est compétent en ce qu'il concerne pour tout ce qui concerne les infractions au code de la consommation. Mais au-delà de ça, pour toutes les affaires criminelles, donc si un crime est commis par exemple à Castelnaudary, eh bien c'est le pôle de l'instruction de Narbonne qui va se charger des enquêtes. Et si les personnes sont renvoyées devant la cour d'assises, ce sera la cour d'assises de Carcassonne. Et là, en l'occurrence, dans l'exemple que vous citez, c'était un vol à main armée pour lequel j'ai souhaité que Mme Corvézier communique, parce qu'il est essentiel que nos concitoyens sachent comment les services de police ou de gendarmerie, en l'occurrence les gendarmes, sont parvenus à identifier l'auteur d'un crime et à l'interpeller. Et surtout qu'il se rassure sur le fait que la personne est maintenant hors d'état de nuire.
Voilà. Et donc, ça explique cette possibilité pour Madame Corvézier. Alors, elle a le titre de vice-procureur. Pouvez-vous, Éric Camus, nous éclairer un petit peu plus dans la hiérarchie du parquet ? Vous êtes donc le procureur. Vous avez, alors, vice-procureur, il existe des substituts. Comment ça s'articule, tout ça ?
Tout simplement, le procureur de la République est chef de juridiction et chef de parquet et doit définir une politique pénale qui est mise en œuvre par les magistrats qui travaillent avec lui dans le cadre d'un lien hiérarchique. Donc, ce lien hiérarchique, c'est celui des substituts qui sont les magistrats qui débutent leur carrière au sein du parquet. Ensuite, vous avez des vice-procureurs, vous avez les vice-procureurs adjoints, et ensuite, le procureur de la République. Donc, selon la taille de la juridiction, vous pouvez avoir 10, 15 substituts, 7, 8 vice-procureurs, 2, 3 procureurs adjoints. En ce qui concerne le parquet de Narbonne, nous sommes 4, donc 2 substituts, une vice-procureur et un procureur. Et Mme Corvézier, qui est vice-procureur de la République, peut être amené à me remplacer pour réaliser des points presse, pour tout simplement être elle-même chef de parquet dans l'hypothèse où je suis indisponible.
Voilà. Mais est-ce qu'il y a, vous avez tendance à avoir des spécialisations ou c'est les circonstances qui les créent ?
J'ai fait en sorte, dans le cadre de l'organisation de service, que chaque magistrat ait une spécialisation. Par exemple, une substitut de mon parquet est en charge du contentieux des mineurs, une autre est en charge de l'exécution des peines, Mme Corvézier est en charge des violences conjugales, et en ce qui me concerne, j'ai la charge de tout ce qui relève de des enrichissements illicites, des opérations de blanchiment et des affaires commerciales, en plus de l'ensemble du travail que nous menons en collaboration ensemble.
Alors, Éric Camus, donc procureur de la République au tribunal de Narbonne, vous dites que c'est le juge qui juge, qui dit le droit, mais vous êtes amené en tant que procureur à prendre un certain nombre de décisions. Là encore, je reviens sur un exemple précis. Il y a quelques jours, à Lézignan, il y a eu une affaire où on a trouvé, des impacts de balles dans une école maternelle. On a trouvé des suspects, ils ont été, je crois, identifiés,
placé en garde à vue, et ensuite la garde à vue a dû être levée, oui.
Voilà. Et vous avez décidé à un moment de lever la garde à vue, alors ça peut surprendre le commun des mortels, pourquoi ?
Alors, le ministère public, donc le procureur de la République, dirige les enquêtes judiciaires. C'est ainsi que le code de procédure pénale le prévoit, puisque c'est nous qui décidons un certain nombre de choses dans le cadre d'une enquête judiciaire, et surtout cette enquête est menée sous notre autorité. Donc les officiers de police judiciaire nous rendent compte de l'accomplissement de leur diligence, et nous validons et nous décidons quelle orientation doit prendre la procédure. Là, en l'occurrence, dans l'exemple que vous citez, les premiers éléments d'enquête qui m'avaient été communiqués m'ont permis de me forger une opinion sur la possible existence des auteurs des tirs qui ont été constatés comme étant les personnes qui vivaient dans le prolongement de la ligne de tir qui avait pu être identifiée. Donc ces personnes ont été immédiatement interpellées parce que vous comprenez bien que cette affaire a particulièrement choqué la population et puis présenté une vraie dangerosité. Et comme la loi le prévoit, ces personnes placées en garde à vue ont fait l'objet d'un examen médical. Et le médecin a constaté que la première personne qui était une femme allaitait son bébé et donc il n'était pas possible de la maintenir en garde à vue. Et la deuxième personne qui était son compagnon souffrait de troubles de santé suffisamment lourds pour que le médecin indique que son état était également incompatible avec une garde à vue. Donc les gardes à vue ont été levées. Mais ça ne veut pas dire que l'enquête s'arrête, puisque j'ai demandé qu'un certain nombre de diligences soient réalisées par les services de gendarmerie, dont il faut vraiment saluer le professionnalisme, l'engagement et la rapidité d'exécution. Et à partir de là, nous verrons, puisque des armes ont été saisies, s'il est possible de faire prospérer cette enquête.
Voilà, mais il fallait que les choses soient précisées à ce niveau-là. En matière, alors, d'indulgence peut-être. Vous nous avez aussi expliqué, monsieur le procureur, que très souvent aujourd'hui, lorsque quelqu'un est condamné à de la prison, à cause d'un phénomène tout simple, la surpopulation carcérale, c'est-à-dire trop de monde dans les prisons par rapport aux capacités d'accueil, vous décidez des alternatives. J'emploie un mot vague volontairement.
Alors, c'est un peu plus complexe que cela. C'est vrai que pour nos concitoyens, l'impression qui est donnée, c'est que les peines ne sont pas exécutées, mal exécutées, et que finalement, il règne un sentiment d'impunité. C'est totalement faux. Tout simplement parce que la réalité des choses que nous vivons au quotidien est le fait que nous ramenons les peines à exécution. En revanche, ce qu'il faut véritablement entendre, c'est que nous appliquons la loi. Nous ne sommes pas là pour créer des choses, nous ne sommes pas là pour inventer des choses, nous sommes là pour appliquer les textes. Les textes ont été votés et ces textes ont comme dénominateur commun de s'assurer de la réparation du préjudice, la protection des victimes d'abord, essentiellement. Également vérifier que la personne assume ses responsabilités à travers la peine qui a été prononcée, et puis surtout de participer à sa réinsertion sociale, parce qu'il est hors de question que la justice crée de la délinquance. Elle est là aussi pour éviter que cette délinquance ne s'exprime à nouveau. Et donc, tout le travail qui est accompli par la justice est de faire en sorte que les peines soient adaptées. Et cette adaptation de la peine, c'est prévu par la loi. Il existe un juge d'application des peines, qui est un juge qui suit les condamnés, qui accompagne les condamnés, qui vérifie que les condamnés respectent leurs obligations, parce que s'ils ne les respectent pas, il est fait incarcérer dans le cadre de la peine qui a été prononcée. Mais de bien entendre le fait que les condamnés font l'objet d'un suivi. Et là-dessus, je crois qu'il faut vraiment saluer le travail fait par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est servi du ministère de la Justice, qui se compose de femmes et d'hommes qui font un travail tout à fait remarquable de suivi et d'accompagnement des condamnés, au même titre d'ailleurs, en ce qui concerne les mineurs délinquants, que les services en charge justement de ce suivi, de la protection judiciaire de la jeunesse.
Nous marquons, Éric Camus, une première pause. On va se retrouver dans une seconde partie où on va peut-être évoquer un certain nombre de partenariats que vous êtes en train de mettre en place, d'actions plus ou moins spécifiques extérieures. Et puis peut-être un mot encore, on reviendra sur les alternatives aux peines. Une première pause, à tout de suite.